Radio Okapi. Grande interview.
Excellent week-end à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité sur Radio Okapi. Grande interview vous propose un nouveau numéro axé sur les concepts de la protection des civils, mission principale du mandat que le Conseil de sécurité a attribué à la MONUSCO dans ses différentes résolutions. Et pour en parler, nous recevons les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, PCNUDH, Abdulaziz Dioye. Honoré Missenga Kalala coproduit ces magazines. Kéline Kouté assure la réalisation. Jean-Claude Nsiala, la mise en onde. Je suis Jean-Marc Matok Mofele, les Dijano. Bienvenue donc à toutes et à tous. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité, Abdulaziz Dioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui démontre dans cet entretien accordé à Honoré Missenga Kalala comment le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme participe aussi à la réalisation de cette mission. Je vous laisse donc suivre cet entretien d'Honoré Missenga Kalala.
Abdulaziz Dioye, bonjour.
Bonjour.
La priorité de la mission de la MONUSCO, c'est la protection des civils. Comment le Bureau conjoint participe concrètement à l'accomplissement de cette mission?
Merci beaucoup. La protection des civils, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, est beaucoup plus large que juste la protection physique. Hein. Donc, il faut bien comprendre que la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC poursuit la protection des civils suivant l'approche des trois tiers, c'est-à-dire une approche politique, l'engagement avec les plus hautes autorités en termes de plaidoyer, en termes de conseils et surtout d'engagement et de travail concret sur des objectifs au niveau national, macro, qui pourraient avoir une incidence sur les situations particulières qui peuvent exister dans une province, et aussi le deuxième tiers qui est la protection physique. La protection physique, comme vous le savez, procède d'une responsabilité première, évidemment, des autorités congolaises, mais avec le soutien de la force de la MONUSCO, mais également des autres composantes qui contribuent à ce travail-là. Donc, nous, dans mon rôle de bureau conjoint, pour ce deuxième pilier, nous travaillons concrètement. Nous intervenons dans les trois piliers. J'ai parlé du dialogue politique, j'ai parlé de la protection physique, mais j'ai parlé aussi du troisième pilier qui est la création d'un environnement protecteur. La création d'un environnement protecteur est extrêmement importante parce que c'est tout ce qui est adoption de lois, politiques, programmes qui peut permettre véritablement les efforts de lutte contre l'impunité qui participent de façon très claire à créer un environnement protecteur qui peut empêcher effectivement à la violence de pouvoir se répercuter et se perpétuer. Donc, nous soutenons le bureau conjoint, moi dans mon rôle en tant que représentant du Haut-Commissariat, mais également directeur du bureau conjoint, j'ai un rôle de conseil auprès de la SRJ. Donc, je conseille la SRJ, mais je conseille aussi le représentant résident, qui est David McLenkar, sur les questions qui concernent l'équipe pays des Nations Unies et sur les questions humanitaires, pour l'intégration des droits de l'homme, pour toutes ces réponses protection multiformes. Donc, ça va engager l'activité principale du bureau, qui consiste à collecter des informations, vérifier des informations, vérifier, documenter et à les faire remonter via la SRJ pour que la SRJ l'utilise dans son engagement avec les autorités congolaises au plus haut niveau et également aux différents niveaux d'intervention qui peuvent exister dans le pays avec les parlementaires, les acteurs politiques, la société civile et l'armée et la police. Alors, donc, de la même façon, l'information que nous collectons, le travail de collecte d'informations, d'analyse, d'enquête et de production de rapports informe également l'identification des poches de risques et de violence et qui permet aux militaires, à la fois congolais et aux militaires de la mission, de pouvoir identifier des zones potentiellement criminogènes où il y a la violence contre les civils, où effectivement les déploiements ou les mesures doivent être renforcer un travail conjoint effectué pour véritablement neutraliser les groupes armés et protéger davantage les civils dans le respect des principes qui guident l'action des Nations Unies en matière de prévention et protection des droits de l'homme, des droits des réfugiés, mais également du droit international humanitaire.
Oui, les droits de l'homme sont multidimensionnels. On parle des droits socio-économiques et droits politiques et civiques, notamment. Quelles sont les avancées qu'on peut retenir dans le cadre de cette mission, donc par rapport aux actions du bureau conjoint?
Alors, la dernière résolution 2556 est très précise de ce point de vue-là, et avant elle, la 2509. Elle demande depuis quelque temps, si vous avez suivi, à la mission de travailler aussi sur les causes du conflit. Travailler sur les causes du conflit consiste à identifier tous les facteurs qui peuvent générer de la violence et à essayer de travailler là-dessus. Donc, c'est la mobilisation à la fois de stratégies militaires et de stratégies non militaires. Et dans les stratégies militaires, non militaires, il s'agit aussi de travailler sur les aspects qui concernent des potentielles causes de conflits coutumiers, de conflits de terre, même si nous n'avons pas un avantage comparatif par rapport à d'autres agences des Nations Unies qui ont un mandat éminent sur les questions des ressources naturelles, sur les questions d'accès à la terre, sur les questions de gouvernance, par exemple. Mais dans le contexte de maintien de la paix, il est important de travailler sur tous les facteurs qui peuvent être à l'origine d'une violence armée, qui peuvent amener des individus à prendre les armes contre les institutions ou simplement de s'en prendre à des civils. Donc, il faut travailler réellement aussi sur les causes. Il ne faut pas juste être dans la réponse au risque, il faut travailler sur les efforts de prévention. Et les efforts de prévention, si vous avez bien vu, le secrétaire général des Nations Unies a mis l'accent sur la prévention. Faire en sorte d'agir avant la commission d'une violence, avant qu'une situation ne dégénère en violence, avant qu'on puisse évidemment voir l'éclosion de groupes armés. C'est un combat très difficile, mais dans lequel nous sommes tous engagés, parce que, et comme je l'ai dit, le travail de collecte d'informations, d'analyse, permet de soutenir la prise de décision sur les stratégies à engager, sur les moyens à mettre en œuvre pour définitivement réduire la violence. Et comme vous le savez, les aspects socio-économiques sont également dedans. Il ne s'agit pas seulement des questions de violence sexuelle, des questions de torture, des questions d'arrestation, détention arbitraire du droit à la vie. Il s'agit aussi de la possibilité de créer les conditions, un environnement qui permette aux Congolais de pouvoir jouir effectivement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. La possibilité, et vous savez que l'effet levier que la paix et l'amélioration de la sécurité peut avoir sur différents niveaux d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à un environnement sain, et ainsi de beaucoup de droits collectifs qui véritablement peuvent permettre véritablement de créer les conditions d'une paix et d'une sécurité durable. Donc le bureau conjoint travaille sur tous ces aspects-là, avec notre double chapeau qui nous fait de notre bureau une composante de la mission, mais également un bureau à part entière qui, évidemment, a un mandat de coopération technique avec le gouvernement de la RDC.
Donc c'est dans cette approche préventive que le bureau conjoint publie périodiquement ses rapports sur les tendances, par exemple, des droits de l'homme en RDC.
Tout à fait. D'abord préventive, c'est extrêmement important parce que l'information, comme j'ai dit, est clé à la prise de décision. Elle permet de prévenir, mais elle permet aussi de protéger. Protéger, c'est agir avant, mais aussi, quand ça s'est passé, agir pour que ceux qui ont été à l'origine de la violence puissent répondre des faits qui leur sont reprochés. C'est créer de la redevabilité, que ce soit de la part des forces de sécurité et de défense ou des individus qui appartiennent à des groupes armés ou autres qui sont auteurs de violences contre la société ou portent atteinte à leurs biens ou à leur intégrité physique. Donc c'est extrêmement important de travailler. Le rapport permet aussi de lutter contre l'impunité. Parce que ce que nous rendons public est juste la synthèse. Nous avons un rapport qui est beaucoup plus détaillé et qui est adressé aux autorités judiciaires ou aux autorités militaires ou policières au niveau hiérarchique pour que les éléments qui relèvent de la discipline ou des poursuites pénales puissent être enclenchées avec notre soutien. Parce que nous sommes également fournisseurs de soutien pour ce qui est de la protection des victimes et des témoins, sans lesquels il est peut-être quelquefois illusoire de pouvoir prétendre avoir un procès en RDC, mais aussi créer les conditions pour que ces procès-là puissent se tenir. Merci.
Radio Capi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet protection des civils du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par protection des civils et comment cela se passe concrètement sur terrain? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Capi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Abdoulaziz, l'une de vos missions, et non des moindres, consiste à assurer la protection des victimes, vous venez de le dire, des témoins, des défenseurs des droits de l'homme, parmi lesquels les journalistes que nous sommes. Prenons les victimes de violences sexuelles. Comment assurez-vous leur protection? Et les enfants victimes de diverses formes de violences, comment assurez-vous aussi leur protection?
Ok. L'idéal aurait été effectivement de tout faire pour que ces violences-là n'aient jamais pu avoir lieu. Mais malheureusement, effectivement, on est dans la réponse. Le temps de la réponse est beaucoup plus quand la violence a été commise. Donc, pour les protections des témoins et des victimes, il faut créer. J'ai parlé tout à l'heure de la création d'un environnement protecteur. Dans le contexte d'intervention, il y a des zones où vous avez des violences qui sont ou des activités armées qui ont encore lieu, ou des opérations militaires qui sont en cours. Vous pouvez bien comprendre que quelquefois, dans ces contextes-là, une personne qui a été violée, qui a été fait l'objet d'un pillage, ou dont le papa, la maman, l'enfant a été tué, pense beaucoup plus à sa survie, à se mettre à l'abri, à sa propre sécurité d'abord, avant de pouvoir les dénoncer, et peut-être donner les conditions pour que des poursuites judiciaires ou une enquête judiciaire puissent être enclenchées. Il faut créer les conditions pour tout cela. Donc, le dispositif de déploiement de la force et des FRDC, souvent, suit aussi la possibilité de créer des couloirs qui permettent à ces individus-là de pouvoir sortir des zones dans lesquelles elles sont prises au piège de la part de l'activité armée et de pouvoir avoir accès à la justice, à l'hôpital pour se faire soigner, mais également pouvoir faire savoir ce qui leur est arrivé. Et c'est à partir de là que, dans un temps immédiat, une action peut être apportée, ou peut-être dans un temps peut-être un peu retardé, ou un accompagnement peut être organisé de manière à leur permettre de pouvoir avoir accès à la justice. Mais l'accès aux soins est immédiat, donc tous ces aspects-là, nous travaillons là-dessus. Donc les procédures de protection des victimes et des témoins et des défenseurs impliquent à la fois des protocoles de protection individuelle, mais également de protection dans un ensemble qui implique les communautés ou d'autres groupes d'associations sont en mesure d'apporter ce soutien-là. C'est très complexe et ça peut quelquefois impliquer des relocalisations. C'est-à-dire, pour un temps limité, vous faire sortir de là où vous êtes, pour vous mettre dans un endroit où votre sécurité pourrait être garantie selon les lois et les normes du pays pendant un certain temps, jusqu'à la situation qui était facteur de menace de votre sécurité et votre intégrité soit plus ou moins rétablie afin que vous puissiez retourner chez vous. Donc c'est très complexe. C'est très complexe. Au cours de ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé et ce pays a servi, disons, de bonnes pratiques tirées de la RDC, appliquées par les équipes qui m'ont précédé ici, ont fait l'objet d'études et des procédures opérationnelles ont été élaborées qui sont en train d'être répliquées dans d'autres pays et même dans des institutions internationales qui aujourd'hui travaillent sur ces mêmes procédures et ces mêmes protocoles.
Oui, mais concrètement, qu'est-ce que le bureau conjoint fait par exemple pour les enfants qui sont recrutés dans les groupes armés?
Alors, il y a une répartition des tâches dans le cadre du mandat. Alors, pour les enfants dans un contexte d'intervention comme celui de la MONUSCO, pour la protection spécifique des enfants dans le cadre des conflits armés, ce travail-là est fait par des collègues qui ont un rôle particulier. C'est la section de protection de l'enfance, qui s'occupe de travailler en amont en termes de prévention pour le recrutement et la séparation des enfants. Et le relais est pris à un certain niveau par l'UNICEF. Quand il s'agit de la séparation, de la prise en charge, la réinsertion, cette partie-là, elle est prise en charge par l'UNICEF, par exemple. Mais nous avons un mandat de protection large. Donc, en tant que bureau droits de l'homme et représentation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc nous avons cette responsabilité globale de protection des enfants, des femmes, de toutes les catégories d'individus qui ont des droits. Donc, ce travail-là, dans le cadre de notre monitoring, on ne va pas dire non, ce sont des enfants. Non, nous faisons le même travail. Quand il s'agit d'enfants, nous faisons le référencement selon les procédures qui sont établies vers les structures qui sont véritablement habilitées à les, véritablement les prendre en charge. Merci.
Oui, je voudrais quand même parler de la catégorie à laquelle moi j'appartiens, journaliste. Qu'est-ce que vous faites pour les journalistes dans le cadre de la protection?
Alors, pour les journalistes, je crois que vos collègues seraient d'ailleurs mieux placés que moi pour répondre à ce que nous avons fait. Je crois que nous sommes l'entité des Nations Unies qui a le plus, au cours des dernières années, agi pour protéger les journalistes dans le cadre de la protection de notre programme de protection individuelle, où nous avons, dans des contextes précis où il existait des menaces, une menace imminente sur la liberté, l'intégrité physique ou même la vie de certains journalistes, nous avons pris des actions dans le cadre des procédures, des protocoles qui ont permis de pouvoir créer des conditions rapides de protection individuelle et plus tard de relocalisation selon, parce que nous ne sommes pas seuls, nous travaillons avec beaucoup de réseaux et beaucoup d'entités à l'extérieur et à l'intérieur du pays qui travaillent sur ces questions-là. Je pense qu'eux-mêmes pourront, c'est un domaine qui est très sensible et on ne pourra pas dévoiler tout ce que nous faisons, la procédure et le protocole qui est suivi, mais vos collègues connaissent très bien cette procédure-là et ils savent comment en bénéficier très rapidement à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose à eux. Bon, sans pour autant servir d'entrave à l'administration de la justice, ça aussi je voudrais le souligner. Il s'agit de cas avérés pour lesquels évidemment il existait un risque ou une menace imminente sur la vie, la liberté ou simplement l'intégrité physique d'un journaliste dans le cadre de son activité légitime.
Abdoulaziz, autre importante mission qui vous revient, c'est le renforcement des capacités institutionnelles en logistique et en formation. Quelles ont été les réalisations phares du bureau conjoint dans ces domaines, concernant particulièrement les FRDC et la police nationale congolaise?
Alors, bon, en termes de capacité logistique, renforcement des capacités logistiques, je devrais dire que nous ne sommes pas pourvoyeurs de logistique pour les forces armées ni la PNC. Mais en réalité, notre travail d'analyse, de plaidoyer et d'engagement avec les acteurs permet quelquefois de trouver des lignes fortes de plaidoyer pour un renforcement de l'appui dans le cadre de la coopération internationale pour les FRDC et les PNC. Nous avons, par exemple, beaucoup fait de plaidoyer pour véritablement, dans le cadre des rapports que nous avons faits, vous vous rappelez, on a un rapport sur le recours excessif à la force, dans le cadre du maintien de l'ordre, où nous avons plaidé et appelé les partenaires internationaux de la RDC à davantage équiper les forces de sécurité nationales, notamment la PNC, en équipement qui leur permette de pouvoir maintenir l'ordre. On ne maintient pas l'ordre avec une Kalachnikov. On utilise des bâtons, des boucliers et des grenades lacrymogènes utilisées dans certaines conditions. Donc, on parle de l'utilisation de moyens non létaux à chaque fois qu'il s'agit de maintenir
l'ordre public.
Donc, c'est extrêmement important. Nous travaillons beaucoup sur ces aspects-là et nous faisons beaucoup de renforcement de capacités parce que l'activité de collecte d'informations, d'analyse des situations permet d'identifier des gaps qui existent en termes de capacités, en termes de formation de la police ou des militaires, en termes d'équipement, en termes d'insuffisance dans le cadre du déploiement, ce que nous avons fait récemment dans le cadre du rapport sur Béni, où nous avons dit, par exemple, qu'il serait bien de davantage améliorer le déploiement, les conditions de déploiement des militaires FRDC, en leur donnant la possibilité d'avoir accès à des casernes. Cette recommandation a été retenue aujourd'hui. Il y a des casernes qui sont en train d'être construites pour les FRDC, de manière à leur permettre de pouvoir maintenir les positions et de pouvoir vivre dans des conditions décentes.
Oui, directeur, en février dernier, pour la première fois d'ailleurs, le bureau conjoint a publié un rapport sur les messages de haine. En quoi cette action répond-elle de la mission de protection des populations civiles?
Si vous avez observé, depuis les dernières élections, dans le contexte avant, pendant et après élection, vous avez vu une tentation de la part de certains acteurs à recourir à des messages qui qui incite à la haine ou à la violence. L'incitation à la haine, tribale et autre, est interdite par la constitution de votre pays. Vous avez une ordonnance de 1966 ou 1996, si je m'abuse, une ordonnance qui, de façon très claire, réglemente et dit les conditions dans lesquelles, évidemment, qui régissent ce domaine-là. Je voudrais simplement dire ceci. C'est un rapport qui est extrêmement important, qui est venu à point nommé, compte tenu du contexte dans lequel nous avons vu une flambée de discours qui incitent à la violence ou à la haine ethnique, régionale, tribale, ou des discours qui portent sur l'identité. Dans tous les pays où il y a eu des crimes de masse, où il y a eu des violences qui ont ciblé des communautés, où on a eu des centaines de morts, l'élément déclencheur a été le recours au message d'incitation à la haine. Ce rapport tient compte d'un ensemble de facteurs, l'identité de l'auteur. Il est important, quand vous êtes journaliste, vous êtes faiseur d'opinion, quand vous êtes homme politique, député, ministre, figure publique, vous avez un statut et vous êtes écouté. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir mobiliser des foules et les amener à agir dans un certain sens. Donc, si vous regardez bien, nous avons suivi le plan d'action de Rabat qui donne le seuil à partir duquel on ne peut plus dire qu'on est dans le cadre d'exercice d'une liberté d'expression, mais qu'on a franchi la ligne rouge qui consiste à réellement appeler des individus à agir contre d'autres sur la base d'une appartenance à une communauté, une appartenance à une région, à une tribu, ou ainsi de suite, ou simplement une appartenance politique, ça peut arriver. Donc il est important, le plus grand risque qui existe aujourd'hui en dehors de l'exploitation des ressources naturelles, des convoitises, la compétition politique, de l'impunité, ce sont ces messages-là qui sont véritablement une menace contre la paix et la sécurité. Et qui dit menace contre la paix et la sécurité dit possibilité effectivement que des individus puissent être menacés dans leur vie, leur bien et leur intégrité physique du fait simplement qu'ils habitent une région, qu'ils appartiennent à une ethnie ou qu'ils parlent une langue ou ils appartiennent à un parti politique. Donc il est important, c'est un appel à tous, il faut protéger les civils et la protection des civils implique également l'identification de facteurs de risque sur lesquels il faut agir en guise de prévention, comme je l'ai dit, qui est aujourd'hui l'objectif le plus important que le secrétaire général des Nations Unies a assigné à l'ensemble du système, de travailler davantage à renforcer les moyens de prévenir la violence et prévenir la violence et aussi prévenir les conflits.
Radio Capi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet protection des civils du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par protection des civils et comment cela se passe concrètement sur terrain? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Capi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Abdelaziz, donc on peut conclure que toutes les actions que le bureau conjoint mène, comme d'autres sections de la mission des Nations Unies en RDC, convergent vers l'objectif de la protection des populations.
Absolument. La protection des civils est très large. Je dis même à certains que la protection des civils implique une partie de la stabilisation. C'est-à-dire créer un environnement protecteur et créer de la stabilisation. C'est-à-dire vous risquez d'aider l'État à restaurer ses fonctions régaliennes dans une partie du pays, à mieux administrer les personnes et leurs biens, à mieux administrer le territoire. Ça, c'est de la stabilisation. C'est de la protection des civils. C'est la protection des civils est large. Je rappelle que tous les États ont pour fonction de réellement s'assurer du bien-être de leur population et leur donner de la sécurité. N'est-ce pas?
Directeur Abdelaziz Tchoy, merci.
Merci à vous.
Voilà. voilà, tout est bien qui finit bien. J'espère que vous avez pu avoir plus d'informations sur les concepts de la protection des civils, mission principale du mandat que le Conseil de sécurité a attribué à la MONUSCO dans ses différentes résolutions. Nous avons donc reçu pour vous le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, PCNUDH, Abdulaziz Dioye. Honoré Missenga Kalala a coproduit ses magazines Grande Interview. Kelly Nkoute était à la réalisation. Jean-Claude Tiala a assuré la mise en œuvre. Je suis Jean-Marc Matoua qui m'offre les Dijanon. Les rendez-vous est pris dans une semaine pour un autre numéro de votre magazine Grande Interview. Très bon tu des programmes sur Radio Capi. Votre radio est passée un agréable week-end.